égalité, inégalité et zakat dans les pays musulmans. De façon générale, force est de constater que les promesses d'égalité sociale, politique et économique, régulièrement portées par l'islam au cours de l'histoire, comme d'ailleurs par le christianisme, l'hindouisme et les autres religions, ont régulièrement conduit à des désillusions. Toutes les religions ont certes servi de support depuis des millénaires et sur tous les continents au développement de solidarités importantes et de services sociaux essentiels au niveau local. Les classes cléricales et intellectuelles, issues des diverses constructions et doctrines religieuses, y compris le confucianisme et le bouddhisme, ont également permis d'équilibrer pendant des siècles le pouvoir des classes guerrières et militaires au sein des sociétés trifonctionnelles dans toutes les régions du monde. Les messages d'égalité et d'universalité portés par les religions ont régulièrement offert des voies d'émancipation possibles pour des minorités discriminées, comme l'illustrent par exemple les conversions musulmanes dans les sociétés hindoues, qu'une partie des nationalistes hindous reproche d'ailleurs toujours à l'islam et aux intéressés. Mais dès lors qu'il s'agit de structurer des sociétés et de réduire les inégalités à une plus vaste échelle, les rigidités, les conservatismes et les incohérences des idéologies religieuses, en particulier sur le plan familial, légal et fiscal, apparaissent au grand jour. On observe certes dans l'islam comme dans toutes les religions l'expression d'un certain attachement à l'idée d'égalité sociale au niveau théorique. Mais les recommandations pratiques et institutionnelles qui en découlent sont en général relativement floues. Elles se caractérisent souvent par une telle plasticité qu'il est possible de les mettre au service de toutes les idéologies conservatrices du moment. S'agissant par exemple de l'esclavage, dont le christianisme s'est parfaitement bien accommodé pendant des siècles, ainsi que nous l'avons vu avec l'attitude des papes et des royaumes chrétiens depuis les grandes découvertes, comme avec les justifications sociales portées par Jefferson ou Calhoun au début du XIXe siècle, on retrouve les mêmes ambiguïtés fondamentales tout au long de l'histoire de l'islam. En théorie, l'esclavage est condamné, surtout s'agissant de corélégionnaires ou de convertis musulmans. En pratique, on observe de vastes concentrations négrières dans de nombreux États musulmans depuis l'Égypte, à commencer par le cas des esclaves noirs utilisés dans les plantations irakiennes au 8e et 9e siècle lors de l'âge d'or du califat abbasside. Les théologiens musulmans du début du 21e siècle continuent d'expliquer doctement, à l'image des sénateurs de Virginie et de Caroline du Sud du 19e siècle, que l'esclavage est certes insatisfaisant sur le plan historique, mais que son abolition est un processus qui doit être préparé avec soin, en fonction du contexte de l'époque, et en prenant le temps nécessaire pour que les populations concernées disposent des capacités et de la maturité suffisantes pour pouvoir vivre autrement que sous la tutelle de leur maître. Concernant la fiscalité et la solidarité entre classes sociales, l'islam impose en principe l'obligation du zakat. Les fidèles qui en ont les moyens doivent contribuer par leur aumône aux besoins de la communauté et à l'aide aux plus démunis, en principe en proportion des biens détenus, argent, métaux précieux, fonds de commerce, terres, récoltes, bestiaux, etc. Le zakat apparaît dans plusieurs sourates du Coran, mais sous une forme imprécise. De nombreuses traditions juridiques musulmanes proposeront par la suite diverses formulations, souvent de façon contradictoire. Au XIXe siècle, dans les régions chiites d'Irak et en Iran, les fidèles devaient en principe verser jusqu'à 1/5 de leurs revenus et 1/3 de leurs héritages aux moudjahides de leur choix. Il faut cependant souligner que le montant effectivement versé reste souvent confidentiel. Dans la plupart des sociétés musulmanes, le zakat est généralement conçu comme le fruit d'un dialogue direct entre le fidèle, sa conscience et la divinité, d'où le besoin d'une certaine flexibilité. Cela explique sans doute pourquoi nous ne disposons pour aucune société historique musulmane, qu'elle relève du chiisme ou du sunnisme, d'archives du zakat qui auraient pu être exploitées pour étudier les montants réellement versés par les uns et les autres ou pour analyser l'évolution de la répartition des fortunes et des revenus de la société en question. Dans le cas des pétromonarchies, des versements en rapport avec les fortunes possédées par les princes et les milliardaires du pays pourraient pourtant fournir des recettes substantielles pour la communauté et aussi apporter des informations précieuses sur la répartition de la propriété et son évolution. Il faut également souligner que le zakat a généralement été envisagé comme un prélèvement strictement proportionnel, avec un même taux demandé aux plus pauvres et aux plus riches. Ou parfois, un prélèvement avec deux tranches, un montant exonéré, suivi d'un taux unique au-delà de ce seuil. Et non comme un prélèvement explicitement progressif à tranches multiples, qui seul permettrait une véritable mise en adéquation de l'effort demandé en fonction des capacités contributives des uns et des autres et ouvrirait des perspectives réelles de redistribution des richesses. Ce manque de transparence, de progressivité et d'ambition redistributrice du zakat est d'ailleurs une caractéristique que l'on retrouve dans une large mesure dans l'ensemble des religions. La dîme ecclésiastique pratiquée en France sous l'Ancien Régime et à laquelle l'État monarchique et les élites seigneuriales avaient donné force de loi était par exemple un prélèvement strictement proportionnel. Il fallut attendre la Révolution française, et surtout le XXe siècle, pour que l'on commence à débattre explicitement de prélèvements progressifs permettant d'envisager des formes plus ambitieuses de justice sociale et de réduction des inégalités dans le cadre de sociétés non religieuses. On rencontre également ce même type de conservatisme dans les religions plus récentes comme l'Église de Jésus-Christ et des Saints des Derniers Jours, les Mormons, fondée en 1830 par Joseph Smith, à partir d'une révélation permettant de rattacher les terres états-uniennes oubliées au grand récit abrahamique et christique et dont le financement actuel repose sur une dîme. Tithe, égale, en principe, au dixième des revenus des fidèles. Ces versements importants ont permis de développer des formes nouvelles de partage et de solidarité au sein d'une communauté de 16 millions de fidèles dans le monde, dont près de 7 millions aux États-Unis, principalement dans l'Utah. Mais il s'agit d'un prélèvement strictement proportionnel. Les finances du mouvement sont particulièrement opaques et l'ensemble est placé sous le contrôle exclusif d'un collège de 12 apôtres nommés à vie, comme le pape de l'Église catholique et les juges de la Cour suprême états-unienne, basés dans la prospère capitale mormone de Salt Lake City. L'apôtre le plus âgé prend automatiquement la tête de l'Église, dont il devient très officiellement le prophète. En cas de décès d'un des leurs, les 11 apôtres restants se réunissent pour choisir un remplaçant. L'actuel prophète, Russell Nelson, a pris ses fonctions en 2018 à l'âge de 94 ans, en remplacement du précédent, décédé à 91 ans. On notera au passage que, depuis une bulle pontificale de 1970, seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans peuvent participer au conclave élisant le nouveau pape. Voici bien la preuve que toutes les institutions ont une chance d'évoluer, y compris les plus vénérables. Propriétarisme et colonialisme, la globalisation de l'inégalité. Récapitulons. Nous avons étudié dans les deux premières parties de ce livre la transformation des sociétés trifonctionnelles en sociétés de propriétaires et la façon dont la rencontre entre les puissances coloniales et propriétaristes européennes avait affecté l'évolution des sociétés ternaires dans les autres parties du monde. Nous avons vu que la plupart des sociétés anciennes, en Europe comme en Asie, en Afrique et en Amérique, étaient organisées suivant une logique trifonctionnelle. Le pouvoir était structuré au niveau local, autour d'élites cléricales et religieuses, chargées de l'encadrement spirituel de la société, et d'élites guerrières et militaires responsables du maintien de l'ordre, suivant des configurations politico-idéologiques variables et évolutives. Entre 1500 et 1900, la formation de l'État centralisé s'est accompagnée d'une transformation radicale des dispositifs politico-idéologiques visant à justifier et à organiser la structure des inégalités sociales. En particulier, l'idéologie trifonctionnelle a progressivement été remplacée par l'idéologie propriétariste, fondée sur une séparation stricte entre le droit de propriété, réputé ouvert à tous, et les pouvoirs régaliens, désormais monopoles de l'État centralisé. Ce mouvement vers le propriétarisme, qui est allé de pair avec la construction de l'État et le développement de nouveaux moyens de transport et de communication, s'est également accompagné d'une mise en contact de régions du monde et de civilisations lointaines qui auparavant s'ignoraient presque complètement ou en totalité. Ces rencontres se sont produites suivant des termes nettement hiérarchiques et inégalitaires, compte tenu notamment de la capacité fiscale et militaire supérieure acquise par les États européens à la suite de leurs rivalités internes. La mise en contact des puissances coloniales européennes et des sociétés des autres continents a produit un ensemble varié de trajectoires politico-idéologiques, en fonction notamment de la façon dont la légitimité des anciennes élites intellectuelles ou guerrières a été affectée par ces rencontres. Le monde moderne est directement issu de ce processus. Parmi les multiples leçons que l'on peut tirer de ces expériences et trajectoires historiques, il faut insister sur la grande diversité politico-idéologique et institutionnelle des différentes sociétés pour structurer les inégalités sociales, au niveau international comme au niveau le plus local, dans des contextes marqués par des transformations rapides et multiples. On pense par exemple aux stratégies européennes de contournement de l'islam par les côtes de l'Afrique et la découverte de l'Inde, suivie de la codification de ces castes, aux puissants États européens fiscalo-guerriers, devenus ensuite fiscalo-sociaux au XXe siècle, aux idéologies propriétaristes ou aux audacieuses compagnies coloniales et actionnariales imaginées en Europe. On songe aux notions de pureté alimentaire, au métissage plurilinguistique et multiconfessionnel, aux dispositifs de quotas sociaux ou au parlementarisme fédéral à grande échelle développé en Inde, aux administrateurs lettrés au service de l'État et du bien public, aux concours impériaux et aux formes communistes nouvelles inventées en Chine, au shogunat, à la restauration et aux stratégies d'intégration sociale appliquées au Japon, ou encore au rôle social des quasi-États chiites, au Conseil des gardiens de la Constitution et aux formes républicaines inédites imaginées en Iran. Une bonne partie de ces constructions politico-idéologiques et de ces institutions n'ont pas franchi le cap de l'histoire. Certaines sont encore en cours d'expérimentation, et nous n'avons pas cherché à en dissimuler les fragilités. Le point commun entre toutes ces expériences historiques est qu'elles montrent à quel point l'inégalité sociale n'a jamais rien de naturel, elle est toujours profondément idéologique et politique. Chaque société n'a d'autre choix que de donner du sens à ces inégalités, et ces discours au service du bien commun ne peuvent être efficaces que s'ils ont un minimum de plausibilité et s'incarnent dans des institutions durables. L'objectif de ces deux premières parties, au cours desquelles nous avons parcouru l'histoire des régimes inégalitaires trifonctionnels, propriétaristes, esclavagistes et colonialistes jusqu'au début du XXe siècle, avec parfois quelques incursions plus récentes, n'était pas seulement d'illustrer l'imagination politico-idéologique des sociétés humaines. J'ai également tenté de montrer dans ce récit qu'il était possible de tirer de ces expériences historiques des leçons pour l'avenir, en particulier concernant la capacité des différentes idéologies et institutions à pouvoir tenir leurs objectifs d'harmonie politique et de justice sociale. Nous avons vu par exemple que la promesse propriétariste d'une plus grande diffusion de la richesse, exprimée avec force lors de la Révolution française, s'était heurtée à une réalité toute différente. La concentration de la propriété en France et en Europe était encore plus forte à la veille de la Première Guerre mondiale qu'elle ne l'était un siècle plus tôt ou sous l'Ancien Régime. Voir chapitres 1 à 5. Nous avons noté les hypocrisies des discours civilisateurs et les formes de sacralisation propriétariste et de domination raciale et culturelle qui ont présidé au développement des sociétés coloniales et aux effets durables produits par la codification étatique moderne des inégalités statutaires anciennes. Voir chapitres 6 à 9. Surtout, l'étude de ces différentes trajectoires nous a permis de mieux comprendre les processus indissociablement socio-économiques et politico-idéologiques par lesquels les différentes parties du monde sont entrées en contact les unes avec les autres et ont donné naissance au monde moderne. Pour aller plus loin, il nous faut maintenant analyser la façon dont les événements et les idéologies du XXe siècle ont transformé radicalement la structure des inégalités à l'intérieur des pays comme au niveau international.